La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir des Françaises et des Français qui se retroussent les manches pour faire vivre leur entreprise en cette période compliquée. Ici, c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises, on en parle ensemble avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Les galeries d'art sont les derniers musées ouverts, alors que souvent, elles impressionnent, elles connaissent en ce moment une fréquentation inédite. On va donc pousser là, tous ensemble, jusqu'à 14h, les portes de l'une des plus grandes galeries de France, avec son fondateur, le galeriste Emmanuel Perrotta.
À la une, en effet, l'art à la portée de tous, l'art pour sauver le monde. L'art est devenu une arme puissante au service des plus fragiles. Une association, Thanks for Nothing, organise des projets artistiques et solidaires et sa cofondatrice nous dira quelles sont leurs actions d'ici quelques minutes.
La FIAC, vous connaissez peut-être, hein, cette grande foire de l'art contemporain. Elle vient de débuter un événement virtuel, Covid oblige, un événement sur lequel surfe chaque année un petit village du Tarn. Il s'appelle justement FIAC et organise une sorte de contre-programmation et ce sera notre saga du jour.
Chaque jour dans La France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Aujourd'hui, avec notre partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons retenu Lord Protect, une solution qui désinfecte le virus dans l'air en une heure. C'est très sérieux et on en saura davantage à 13h45.
Et puis demain, un emploi. Chaque vendredi, on soutient les jeunes qui entrent sur ce marché du travail en cette période compliquée. Aujourd'hui, on a 150 postes à pourvoir. Où ? Vous commencez à connaître le petit jeu, il faut rester jusqu'à la fin pour le savoir.
Et oui, c'est ça, La France bouge et c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et notamment dans le milieu culturel. On croyait que tout était fermé, que les musées sont fermés. Oui, mais les galeries d'art sont ouvertes et on en parle avec notre grand témoin du jour.
Bonjour Emmanuel Perrotin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de la galerie Perrotin, l'une des plus grandes galeries de France. 7500 mètres carrés. Votre galerie est très ouverte sur l'international. Vous avez des galeries à Tokyo, Séoul, Shanghai ou encore New York. Les galeries d'art restent ouvertes dans cette période où les musées sont fermés. Ce sont les seuls lieux culturels ouverts. Comment ça va chez vous en ce moment, Emmanuel Perrotin ?
Écoutez, on est très heureux d'avoir ce nouveau public qui vient. On a eu enfin une vraie couverture médiatique un peu large sur l'idée que les galeries étaient ouvertes et gratuites. Elles sont ouvertes tout au long de l'année et elles ne sont pas intimidantes. On parle toujours de que ça puisse intimider, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Vous êtes les bienvenus.
On est les bienvenus, mais c'est vrai que je ne vais pas parler au nom d'Elisabeth, mais à titre personnel, moi je peux avoir peur des fois de passer la porte d'une galerie. Je me dis, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut parler d'une fréquentation tout simplement record et historique en ce moment ? Si on prend votre exemple, Emmanuel Perrotin.
J'ai une galerie qui est très populaire, qui en général a beaucoup, beaucoup de gens. Bien sûr, c'est difficile de se vanter d'avoir beaucoup de gens en ce moment, puisqu'on est censé avoir assez peu. Donc, tout en maintenant les barrières et le nombre de personnes, on a eu par exemple samedi 1400 personnes.
Et ça, c'était du jamais vu.
On a la queue dans la cour, c'est organisé. Non, c'est pas jamais vu. J'ai eu des expos où on a eu énormément de monde.
Mais il y avait une clientèle internationale
dedans.
Mais
on
n'avait
pas justement de voir organiser des queues. Donc on aurait certainement beaucoup plus de monde, puisque certaines personnes, peut-être... Mais en semaine, vous n'avez pas à faire la queue, donc venez en semaine, il n'y a aucun souci. Et oui, on est très très heureux d'avoir ce public. Les galeries ne vivent pas du public, puisque, encore une fois, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Mais on est content de donner une voix à nos artistes.
Emmanuel Perrotin, vous parliez d'un nouveau public. C'est qui le nouveau public ?
Un public qui, par moment, pense justement qu'il faut payer à l'entrée, même si là, on relaie bien l'idée de la gratuité.
Ce sont des visiteurs.
C'est un public qui a entendu parler, effectivement, de cette possibilité en l'absence des musées, et qui vont découvrir des plus jeunes artistes, ils peuvent découvrir dans certaines galeries des grands monuments de l'histoire de l'art, et qui peut-être, par l'effet d'entraînement, qui est beaucoup plus de gens qui viennent, sont moins intimidés. Mais de nouveau, c'est peut-être que certaines galeries sont intimidantes parce qu'il faut sonner à leur porte pour qu'on vienne leur ouvrir, mais les galeries comme la mienne, il n'y a strictement rien d'intimidant.
Mais c'est qui ce nouveau public ?
Ce nouveau public, c'est les gens que vous attirez. C'est plus vous aurez de grands médias.
Oui, mais au-delà du média, on passe devant, on se dit tiens, il y a la queue, c'est ouvert, j'y vais. Ils sont plus jeunes. Moyenne d'âge,
Les réseaux sociaux font un gros travail.
Donc ce sont des jeunes.
Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a des Il y a un public très jeune qui n'existait peut-être pas quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, qui ne venait pas forcément dans les galeries, où eux se sentaient vraiment exclus. Mais, et là, il y a un phénomène qui a évidemment amplifié tout ça, c'est Instagram. Le fait de... Les galeries sont souvent un support à image.
Finalement, avec, peut-être que le Covid est un accélérateur d'une tendance qui était en train de se développer. Est-ce que c'est une tendance internationale ? Parce que comme le disait très bien Elisabeth Assayag, vous avez des galeries à Tokyo, Séoul, Shanghai ou encore New York. Vous pouvez donc comparer, alors dans certains de ces pays, les musées sont ouverts, mais est-ce que partout dans le monde, vos galeries profitent de ce nouvel engouement ?
De nouveau, quand vous utilisez le mot profiter, on dirait qu'on y gagne quelque chose. On y gagne de la visibilité, mais on n'y gagne pas financièrement. On y gagne si on vend des cartes postales, des posters, des catalogues, si vous voulez, de ce grand public. Mais le grand public achète rarement. Il y a des personnes qui peuvent se rendre compte à cette occasion qu'un certain nombre des artistes que nous représentons ne sont finalement pas inaccessibles. Mais il est évident que, et dans beaucoup de galeries, il faut le rappeler, il y a des œuvres d'art à 500 euros, à 1000 euros, à 2000 euros. Ce n'est pas forcément totalement...
Mais vous-même, c'est depuis longtemps, dans tous les cas, votre volonté, puisque je crois que vous faites partie des premiers à avoir installé une grande librairie au sein, par
Absolument.
Exemple, de votre galerie principale de Paris, avec cette idée de se dire, il faut pouvoir entrer en se disant que je peux dépenser à Magnette une carte postale
Absolument.
Ou autre.
Absolument, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours voulu avoir du grand public, j'ai des machines à compter le public, on suit l'évolution de ça. On a été très actifs en faisant des collaborations avec la mode, avec la musique, avec le sport, pour attirer des nouveaux publics. Et on était déjà désireux de ça. Donc le Covid a accéléré ce mouvement, parce que quand vous ne pouvez pas parler des expos de musées, bah vous parlez des expos de galeries. Mmh. Et d'ailleurs, on a encouragé ça, parce qu'à un moment donné, les journaux ne parlaient que du fait que les musées étaient fermés. On leur a dit, mais il y a peut-être quelque chose
aussi.
De plus positif
oui.
à discuter, c'est que le fait de parler... Parce que c'est un écosystème très riche, les galeries d'art contemporain. Ça fait vivre énormément de gens, pas que les artistes et les galeries, des installateurs, des transporteurs. Il y a toute une branche de fabricants aussi qui vivent grâce à nous.
Alors cette nouvelle fréquentation, est-ce qu'elle est-elle synonyme de chiffre d'affaires en hausse ?
Écoutez, non, je pense que peu de galeries se vantent d'avoir un chiffre
Sans
d'affaires
volonté,
en hausse.
Mais dans les faits.
Mais en tout cas, de nouveau, si ça donne un éclairage nouveau, ça attire des nouveaux publics. Et si au sein de ce nouveau public, il y a de futurs nouveaux acheteurs, oui, ça va être très profitable à long terme et on s'en réjouit.
Mais est-ce que ça vous a obligé à repenser, comment je pourrais dire, le parcours au sein peut-être de
vous
vos galeries
raison.
D'art, parce que ce nouveau public, il ne regarde pas de la même façon, il vient peut-être plus nombreux à certains moments.
Alors, nous offrions avant le Covid des leaflets en papier.
C'est quoi des leaflets ?
Comme un mini-catalogue, on l'offrait à tout le public, ce qui était un choix très, très particulier d'oser avoir cette perte d'argent, puisque quand on a beaucoup de gens par jour, ça faisait beaucoup de leaflets. On les a transformés en QR code pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons écologiques. Donc cette transition-là est allée très vite. On a imposé un parcours où il n'y a pas de marche arrière possible pour éviter les croisements. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a aucune exposition en ce moment avec des œuvres interactives, c'est-à-dire des œuvres qu'on doit toucher. Ça nous oblige à des choses comme ça. Ça nous oblige aussi à... Vous savez, quand vous avez beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de galeries ne sont pas équipées. Moi, j'ai de la chance d'avoir une galerie qui existe depuis 30 ans, qui a beaucoup d'employés. Mes employés... travaillent beaucoup plus à cause de ça. Il y a certaines galeries qui sont un peu déstabilisées parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir tout ce public. Ça a l'air de rien. Venez un samedi soir à la galerie,
on peut pas le
après
soir.
Tout ça, on voit...
Il y a le couvre-feu à 18h,
oui,
c'est pas
après,
possible.
Justement.
Oui, non, je
ça
sais.
Reste le soir, 18h.
Ça reste le soir, oui, oui.
Non, mais on ferme à 17h. Donc venez pas à 18h, on ferme à 17h pour que les employés puissent rentrer.
Emmanuel Perrotin, vous êtes le fondateur de la galerie Perrotin, notre grand témoin du jour, et vous restez avec nous.
Et il est 13h19.
À suivre des projets artistiques et solidaires pour que l'art et la culture deviennent accessibles à tous.
Oui, l'association Thanks for Nothing agit dans ce sens et sa cofondatrice nous dira comment. À tout de suite. Bien sûr qu'elle bouge cette France et on vous le montre encore une fois de plus depuis le début de cette émission au travers des galeries d'art qui sont restées ouvertes et il y a du monde, il y a de quoi voir de la culture et de s'en imprégner comme nous le dit notre grand témoin Emmanuel Perrotin, le fondateur de la Galerie Perrotin, l'une des plus grandes de France. Ce n'est pas impressionnant, on peut pousser la porte, c'est gratuit et on peut comme ça aller découvrir de l'art contemporain.
Et si l'art pouvait être un moyen de faire le bien dans le monde, c'est ce que se sont dites les cinq fondatrices de l'association Thanks for Nothing. Merci. Merci pour rien. Bonjour Marie Van Schoenbeek.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice de Thanks for Nothing. Votre association a été créée par un collectif de 5 femmes en 2017. Et votre mission à vous, c'est de mettre en lien deux univers qui ne se seraient peut-être pas rencontrés, des artistes et des associations. Comment vous est venue cette idée ?
Oui, alors bah écoutez, c'est tout à fait ça. Donc notre association s'est créée en 2017. Le but étant de lier la carrière que nous avons eue toutes les 5 dans le monde de l'art contemporain, aussi bien dans des musées, des fondations et aussi comme des galeries, comme la Galerie Perrotin, avec le monde associatif dans lequel nous étions des bénévoles, des militantes. Et nous avons constaté que les galeries avaient un manque de visibilité, souvent besoin d'être valorisé aussi dans des circuits culturels comme les musées et aussi besoin d'être soutenu financièrement. Donc depuis 3 ans maintenant, on monte des projets qui ont un impact social, c'est-à-dire on fait des levées de fonds, des expositions, des colloques pour soutenir financièrement ces structures et en même temps, on les valorise puisqu'on les met en lien avec des artistes et tous les porteurs de la culture en France et à l'international.
Pour qu'on comprenne encore mieux, est-ce qu'on peut avoir une idée justement de l'association que vous avez pu faire entre galeries, artistes, associations ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je parlerai du premier projet que nous avons monté, qui était un projet magnifique. C'est un projet qui s'appelait We Dream, donc Nous Rêvons. C'était un projet qu'on avait axé sur la question de l'accueil des réfugiés. Mm-hmm. Donc, on avait sélectionné, avec notamment une galerie collègue d'Emmanuel Perrotin, la galerie Chantal Crouzel, une 30aine d'artistes qui avaient offert des œuvres extraordinaires, qui étaient présentées au Palais de Tokyo pendant une grande semaine d'exposition. Et à côté de ça, les associations, 5 d'entre elles, en l'occurrence, qui s'occupent de l'accueil des réfugiés, étaient présentes au Palais de Tokyo pour parler leurs actions, rencontrer des nouveaux publics et donc dialoguer avec le monde de la culture.
On le voit
à la fin de cette semaine. Et à la fin de cette semaine d'exposition, on a vendu les œuvres et récolté plus de 2 millions d'euros qui l'ont été reversés.
Donc 2 millions d'euros redistribués, je crois, à 5 associations qui accueillent des personnes réfugiées. Donc on le voit, on l'entend à chaque fois, le but c'est d'avoir un impact social hein, sur des thèmes bien précis. Donc là, il s'agissait des réfugiés, la place des femmes, les droits de l'homme, l'accès à l'éducation. Il y a aussi un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur, c'est un centre d'art qui va ouvrir à Paris d'ici 2024. Et là, vous travaillez avec beaucoup de cœur, vous y mettez beaucoup de cœur dans ce projet. Je crois que c'est la collective.
Oui, exactement. Alors ça, c'est un magnifique projet qui reprend les piliers de notre association Thanks for Nothing, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la défense des droits de l'homme, l'accès à l'éducation et la préservation de l'environnement. Et en fait, nous avons gagné le plus grand appel à projet culturel de la ville de Paris il y a maintenant 1 an pour ouvrir la collective qui sera le premier grand centre d'art, donc 4000 m² en plein cœur de Paris, sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, avec un centre d'art, des expositions, des artistes en résidence, un centre de solidarité, puisqu'il y aura aussi des associations au cœur de notre dispositif, et c'est ça la nouveauté, et un bâtiment écologique, pionnier et à la pointe des questions environnementales.
Finalement, là-dedans, vous allez mettre dans le réel tout ce que vous avez essayé de faire depuis votre création.
Ben exactement, c'est vraiment une nouvelle étape et un vrai changement d'échelle pour nous, puisque comme je vous l'ai dit, on s'est créé il y a maintenant 3 ans. C'est vraiment la force du collectif, notre projet, c'est vraiment que les galeries se sont mobilisées, les musées se sont mobilisés, les artistes de façon exceptionnelle, et les associations nous suivent et nous les accompagnons au quotidien. Et là, grâce à ce projet, on va véritablement s'ancrer dans un lieu, on va développer notre équipe, puisqu'on va passer d'une petite structure à une équipe de plus de 15 salariés avec un budget de fonctionnement très important et plus de 200 000 visiteurs par an en plein cœur de Paris avec un vrai nouveau modèle d'une institution culturelle totalement solidaire.
C'est unique en France, ça n'existe pas encore.
Ben écoutez, les pratiques des institutions culturelles sont évidemment très ancrées dans les enjeux sociétaux. Beaucoup d'associations sont accueillies par les équipes de public. Mais nous, là, on a décidé effectivement de fonder un modèle très différent, puisque pour vous donner un exemple très concret, notre espace d'exposition qui accueillera 2 expositions internationales par an, juste au-dessus, donc c'est un très bel espace qui fait 1000 m², et juste au-dessus, il y aura un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes réfugiées gérées par Emmaüs Solidarité.
Emmanuel Perrotin, notre témoin du jour, fondateur de la Galerie Perrotin. L'exemple de Thanks for Nothing, c'est des projets comme ça, j'imagine que c'est tout nouveau. Moi, je n'en avais jamais entendu parler d'une telle ampleur.
C'est un groupe de femmes formidables qui ont fait vraiment des projets très intéressants et qui est rendu possible une fois de plus grâce aux réseaux sociaux. Elles ont eu tout de suite une voix.
Elles ont créé une communauté tout de suite.
Voilà, ce qui était évidemment très difficile il y a 10 ans.
Mais ce qui montre aussi peut-être un point très intéressant, et peut-être là en lien également avec la crise sanitaire que nous vivons, c'est qu'on a besoin d'art. Quelle que soit la forme, on le voit là pour des projets solidaires, mais là, aujourd'hui au quotidien, quand on voit la soif des gens de demander des réouvertures de musées, alors que peut-être que la plupart d'entre nous n'y vont pas ou très peu, mais il y a cette soif.
Oui, en plus, dès qu'on vous interdit de faire quelque chose, vous avez envie de le faire. Donc forcément, mais oui, c'est très triste évidemment que les musées soient fermés. Et c'est
mais vous
chance.
Le ressentez, vous, de ces gens qui viennent dans votre galerie, qui vous disent oui. « Heureusement que vous êtes là parce que j'ai besoin de m'éveiller l'esprit,
absolument.
J'ai besoin de sortir,
on
j'ai besoin de voir
nourrir,
du beau. »
Nous nourrir, culturellement.
Absolument, absolument. Et une fois de plus, c'est très bien que ça donne cette chance à un écosystème comme les galeries, qui souvent sont un peu le parent pauvre dans les médias, puisque une fois qu'on a parlé de tous les musées, et vu le nombre de musées que nous avons en France, il y a très peu de place pour parler de l'action contemporaine. Or, nous, on défend des artistes vivants, des artistes qui ont une pratique de maintenant, et leur offrir une voie de communiquer leurs sujets, qui sont souvent des sujets sociétaux, des sujets... N'oubliez pas que c'est un artiste qui s'appelle Joseph Beuys qui a inventé le Parti des Verts en Allemagne et qui a créé le Parti écologique. Donc, on est à la pointe de beaucoup de sujets, et c'est très important qu'effectivement les gens viennent dans les galeries.
Marine Van Schoenbeek, vous, pour vous, et ainsi que pour les quatre autres personnes, les quatre autres femmes qui travaillent dans votre collectif, dans votre association Thanks for Nothing, l'art, c'est une façon pour vous de sortir de la crise ?
Oui, bah écoutez, nous, effectivement, c'est des projets qu'on a menés depuis plus de 3 ans maintenant. Pour nous, c'était une évidence. De toute façon, comme le disait Emmanuel Perrotin, et évidemment, on le remercie aussi de son soutien dans nos projets, comme le disait Emmanuel, vraiment, les artistes aussi abordent le champ social, ils abordent les enjeux de société, aussi bien politiques que sociaux, et aujourd'hui de genre, de diversité, évidemment, qui sont à la pointe de cela. Et donc, pour nous, c'est une évidence que la culture permet de s'emparer de ces sujets, et elle permet aussi de le faire de façon poétique.
De façon poétique.
Et symbolique, et c'est ça qui est important.
Ça s'appelle Thanks for Nothing. Merci à vous, Marine Van Schoenbeek, d'être venue nous présenter votre belle association.
Et Emmanuel Perrotin, le fondateur de la galerie Perrotin, vous garde avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Il est 13h29. À suivre, vous connaissez la FIAC, la foire d'art contemporain ? Eh bien, l'équipe de La France Bouge vous emmène à FIAC dans le Tarn.
Pourquoi faire ? Réponse dans un instant. Ah, ça fait du bien de pousser la porte d'une galerie, d'aller voir un petit peu des tableaux, d'aller voir des sculptures, d'aller voir des expositions dans toutes ces galeries qui existent partout en France. Nous, on en a choisi une, hein, mais on aurait pu en faire plein d'autres. Bon, faut dire qu'on a choisi l'une des plus grandes, celle d'Emmanuel Perrotin, le fondateur de la galerie Perrotin, en plein cœur de Paris, hein, 7 500 m². Merci d'être avec nous dans cette France Bouge. Ce qui est intéressant quand on pousse la porte d'une galerie, c'est que finalement, c'est pas très bien ce qu'on va y trouver. À l'inverse d'un musée où souvent on vient parce qu'on a quelque chose en tête, dans la galerie, on vient le découvrir.
Absolument. Quand vous
ça vous
venez...
fait rire.
Non, ça me fait rire ce que je vous le dis juste avant. Ouais, bah... Et vous m'avez pris ma punchline, donc c'était drôle. Mais.
Faut pas divulguer nos recettes.
Ah oui, non, bien joué. Mais non, c'est vrai que si vous allez dans une première galerie qui appartient à cette association, qui s'appelle MAP, qui est une association qui s'est un peu choisie entre eux, des galeries d'art contemporain, qui est pas des marchands de bibelots, disons. Et vous trouverez un plan, et là, vous pouvez faire une visite de plein de galeries. Il paraîtrait qu'en moyenne, il y a une galerie tous les 30 mètres dans le Marais, par exemple. Donc, vous faites un tour, et vous allez au hasard, et vous allez découvrir des artistes dont vous auriez peut-être jamais entendu parler avant, et vous y allez par hasard, alors que quand vous allez dans un musée, souvent, vous allez voir pour voir une exposition très précise. Là, ça peut être une aventure, et avec les beaux jours qui reviennent, c'est une visite très agréable.
Bon, mais ça peut être une aventure, mais quand on est galeriste, c'est important de présenter l'artiste.
Oui.
Comment faites-vous en ce moment ?
Eh ben, je vous parlais d'un QR code tout à l'heure qui vous donne des...
Oui, mais le QR code, on a envie de voir celui qui... C'est comme si on allait chez une personne quand on va dans une galerie.
Alors ça, vous serez peut-être un peu déçu, même si beaucoup de galeristes se prêtent au jeu, mais il est difficile de se prêter au jeu à tout le public que nous avons.
En ce moment ?
Donc oui, on donne des éléments. Alors, à travers la librairie, par exemple, vous avez des livres, vous avez des choses à consulter, vous n'êtes pas obligé de les acheter. C'est comme les œuvres d'art, vous me disiez, moi, je suis intimidé parce que mon budget ne permet pas de les acheter. Mais quand vous allez au cinéma, vous n'achetiez pas la bande de 35 mm. Vous regardiez le film, et en l'occurrence, vous regardez les œuvres d'art, vous en avez la plénitude complète. Vous ne la ramenez pas à la maison. Et pour les explications, ben oui, on met au point beaucoup d'éléments de langage, de beaucoup de contenus éditoriaux sur les réseaux sociaux. Il n'y en a jamais eu autant qu'avant.
Mais ça se
les
vend galeries, quand même dans ces
les
cas-là.
Les galeries sont relayées énormément par les réseaux sociaux,
oui,
avec beaucoup de choses, des contenus sur les sites internet. Il n'y a jamais eu autant accès à l'information sur l'art contemporain que maintenant grâce à Internet.
Mais donc il y a de l'information, on s'enrichit avec des images, avec les réseaux sociaux, c'est ce que vous nous dites Emmanuel Perrotin, mais quand on est galeriste, on vend un artiste.
Oui, vous avez raison.
Donc on raconte l'histoire de l'artiste et donc on s'adresse à une personne.
Oui, absolument.
Au client.
Oui.
Là,
vous avez des gens un peu plus, entre guillemets, sur deux qui vont engager une discussion sur la base de quel est le prix de telle œuvre et qui va se retrouver à discuter avec quelqu'un. Mais je ne vais pas vous faire croire que les personnes qui sont au comptoir sont là pour toute la journée faire, entre guillemets, le conférencier. Mais n'oubliez pas que dans les musées, c'est souvent un service qui est payant. Et les galeries n'avaient pas suffisamment de public au quotidien pour inventer des services comme celui-ci.
Mais le but du musée n'est pas de vendre l'œuvre d'art.
Non,
le but du galeriste, c'est de vendre son œuvre.
Certes, mais vous voyez, on parle souvent de démocratisation de l'art et souvent on nous passe des passes, le pass jeune et tout ça pour aller dans les musées, sauf qu'il faut qu'ils s'enregistrent, il faut que machin. Nous, il suffit de venir. Donc déjà, on est des passeurs et il faut remercier pour cela les acheteurs, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite minorité qui effectivement achète des œuvres d'art et qui permettent de rendre ce loisir gratuit pour tout le monde. Et certains y viennent comme un loisir et en repartiront avec une passion.
Si on regarde justement votre métier de vendre des arts, comment ça se passe en ce moment, puisque des grandes galeries internationales comme vous dépendent bien évidemment du public international qui est très peu là à Paris. J'imagine que là aussi, on fait des ventes en ayant imaginé des nouvelles façons de vendre.
Bien sûr, heureusement que cette pandémie arrive à un moment donné où beaucoup des outils numériques étaient très matures pour pouvoir correspondre avec tous nos clients à travers le monde. Une galerie comme la mienne, vous disiez qu'il y avait 7500 mètres carrés, je ne voudrais pas, entre guillemets, que les gens soient déçus en venant chez nous. On en a 7500 dans le monde, ce n'est pas que à Paris. Et donc, chacune de mes galeries dans le monde continue à parler. C'est vrai que pour les galeries, d'avoir perdu les foires, qui étaient un gros accès aux clients, une galerie comme la mienne faisait en 2019 24 foires dans l'année. En 2020, on n'en a fait que 4.
On avait eu la patronne de Christie's il y a quelques mois, l'une des plus grosses maisons de vente aux enchères. Alors, on était au début du deuxième confinement quand elle est arrivée, mais elle nous disait ça marche en ce moment, le marché de l'art.
Oui.
Est-ce que c'est le cas également chez vous?
Écoutez, c'est le cas chez moi, mais j'ai une galerie depuis 30 ans et les gens me font confiance d'acheter sur des images, font confiance de... Ils savent qu'on trouvera une solution si finalement ils sont déçus. Ce n'est pas forcément facile pour toutes les galeries. Il y a un effet de consolidation qui est en train de s'opérer, comme dans beaucoup de domaines artistiques. Il est évidemment difficile d'être une galerie de taille moyenne. À la limite, c'est plus facile d'être une petite galerie qui a pu se mettre un peu en hibernation ou
qui peut
changer
venir se greffer
pratiques.
Chez vous, comme vous aviez fait pour Restons Unis après le premier confinement.
Absolument. On avait organisé ça parce qu'il y a aussi un rapport humain, comme vous le soulignez tout à l'heure, qui est très important. Quand on a organisé Restons Unis, je crois que les marchands étaient très contents de se reparler, se retrouver dans cette organisation.
Vous aviez pris des petites galeries que vous aviez hébergées, entre guillemets, chez vous.
Mais disons qu'il y a des pratiques très différentes et c'est vrai que mon expérience n'est pas forcément... j'imagine qu'il y a énormément de galeries qui souffrent énormément en ce moment. Et c'est le cas un peu toute l'année. C'est un métier très difficile. Et si on en parle toujours à travers ses excès et ses réussites, il y a aussi beaucoup de difficultés. C'est un métier de passionné qui font beaucoup, beaucoup d'efforts pour y arriver.
Emmanuel Perrotin, vous disiez que vous faisiez d'habitude, je crois en 2019, plus d'une trentaine de foires par an. Là, en ce moment, c'est la FIAC, mais virtuelle, parce que la FIAC, c'est le grand rendez-vous de l'art contemporain. Elle a lieu en ce moment jusqu'au 7 mars. Si tout va bien, elle se tiendra en présentiel en octobre. Vous aussi, vous avez mis en place des expositions virtuelles. Est-ce que là aussi, ça s'organise d'une manière très précise où on prend la photo, raconte l'histoire et on y va?
Oui. Non, il y a vraiment des équipes. J'ai une équipe très talentueuse à la galerie qui vont inventer des contenus éditoriaux, qui vont créer une histoire, qui vont bien expliquer les choses. C'est d'ailleurs plus facile sur nos propres OVR que nous organisons que celle des foires. Celle de la FIAC, je dois dire, est très bien faite. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, elle était très agréable. Elle a bien tenu compte des échecs des précédentes tentatives des autres foires.
Virtuel.
Et on ne peut que les féliciter.
Et elle marche en ce moment.
Voilà.
Ça marche bien.
Et ça marche. On
vend.
De toute façon, tous les canaux de diffusion sont bons à prendre. Les gens découvrent un artiste à un moment donné. On leur rappelle à une autre occasion. Et au bout d'un moment, ils se disent « Bon, finalement, j'ai aimé ça ». au moins 10 fois à chaque fois que je l'ai vu, je vais finir par me préoccuper d'acheter. Donc de toute façon, c'est important, même s'il n'y a pas forcément des effets très directs.
Dans La France Bouge, chaque jour, Emmanuel Perrotin, nous découvrons une marque, un produit ou un endroit qui font la fierté de notre pays. Et aujourd'hui, justement, nous parlions de la FIAC. Et bien nous, on va vous amener à FIAC. C'est dans le Tarn, c'est un petit village où l'on célèbre l'art contemporain depuis plus de 20 ans.
Oui, on a totalement découvert ça en préparant cette émission. Et c'est Dora Nana qui nous emmène dans le Tarn.
Europe 1, La France bouge, la saga.
Chaque année depuis 1999 se tient à FIAC, un petit village dans le Tarn entre Toulouse et Albi, un festival d'art contemporain pas comme les autres. On le doit à un homme passionné, Patrick Tarès, qui s'est installé dans ce village et a décidé à l'époque de faire connaître au plus grand nombre l'art contemporain. Antoine Marchand, actuel directeur artistique du festival.
Il a pensé à un concept un peu fou à l'époque, je pense, même si ça l'est encore aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que c'était vraiment quelque chose de très, très novateur. Ça part presque d'une blague au départ, quoi. Dans un village où il n'y a pas de lieu d'exposition, où il n'y a pas de tradition particulière, où il y a juste ce clin d'œil à la FIAC, à la foire d'art contemporain parisienne, de ce petit village du Tarn, qui en plus, effectivement, s'appelle FIAC.
Le festival s'est structuré autour d'une association, la FIAC, pour Association Fiacoise d'Initiatives Artistiques Contemporaines, qui depuis 22 ans propose chaque année à des artistes de venir en résidence chez des habitants du village pour créer une œuvre qui sera exposée au public le dernier week-end de juin.
C'est vraiment l'idée que l'art contemporain existe dans des lieux autres que les salles des musées ou que les salles des centres d'art. Donc chaque fois, c'est partir à la rencontre des familles, leur expliquer le projet. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile après 20 ans. C'est un événement qui est reconnu aujourd'hui, qui est vraiment considéré. Il faut malgré tout toujours leur expliquer de quelle manière ça va se passer. Et en même temps, ce sont des aventures humaines inédites et nouvelle à chaque fois. C'est vraiment l'idée de la rencontre entre un artiste et une famille qui vient loger chez l'habitant pendant, alors ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours selon l'œuvre qui va être produite, quoi. Et puis les œuvres ensuite se retrouvent dans le salon, dans le jardin, dans les chambres des enfants. Enfin ça, c'est vraiment, chaque projet est différent et unique.
Des rencontres humaines fortes et des amitiés qui se sont créées au fil du temps. Certains artistes viennent encore en vacances des années plus tard dans les familles qui les ont accueillis. Et toujours dans le but de démocratiser l'art contemporain, l'association organise aussi des résidences d'artistes dans les écoles.
Il y en a 2 ou 3 par an où les artistes viennent dans des classes. Donc il y en a une à FIAC cette année qui s'est terminée là en janvier. Et l'œuvre qui a été créée par l'artiste a été faite en collaboration avec les enfants. Les enfants ont participé vraiment à la création, à la production même de l'œuvre. Et c'est pour la plupart d'entre eux une première confrontation avec l'art contemporain. Et puis pour les artistes, c'est toujours des moments un peu particuliers de partager leur travail avec des enfants de 6 ou 7 ans. C'est des rencontres humaines, quoi, vraiment.
Un festival qui, au fil des ans, a su s'imposer et qui attire en temps normal 1500 personnes dans ce petit village d'un peu plus de 900 habitants. Et comme les autres, ils ont dû s'adapter aux contraintes sanitaires. L'année dernière, l'art, au lieu d'investir les maisons, s'est installé au cœur du village, dans les rues et dans son café. Et en juin prochain, il va se déployer le long de la rivière en attendant un retour à la normale, de la FIAC à FIAC, pour l'édition 2022.
C'était une bien jolie balade dans le Tarn grâce à Dora Nana. Emmanuel Perrotin, fondateur de la Galerie Perrotin. Est-ce que cette période, là on le voit, on a besoin d'art, est-ce que cette période est aussi propice pour les créateurs, pour les artistes? Est-ce que le Covid, d'une certaine manière, les inspire?
Alors évidemment, certains doivent être complètement pétrifiés par la situation et gênés. Certains artistes qui produisaient des œuvres à destination, c'est-à-dire à l'occasion d'expositions, les artistes qui font des œuvres in situ, donc qui tiennent compte de l'espace dans lequel ils sont invités, sont évidemment bloqués par ça. Certains ont perdu beaucoup d'assistants qui les aidaient dans le développement des projets, puisque beaucoup d'expos ont été remises. Donc évidemment, ça c'est le verre à moitié vide. Mmh. Et puis après, le verre à moitié plein, c'est qu'évidemment, en période de crise, pensez au l'Angleterre en crise qui a produit les Beatles. Mmh. Évidemment, ça ne s'est pas fait à un moment heureux.
Et là, les nouveaux Beatles de l'art contemporain se préparent.
On peut l'espérer. Et certainement que beaucoup d'artistes ont eu plus de temps pour se concentrer sur leur travail et moins dans la promotion de leur travail.
Il y a une œuvre qui vous a particulièrement marqué pendant cette période de crise ?
Il y a eu une série de choses faites par Tatiana Trouvé, une artiste qui a fait sur des couvertures de journaux pendant le confinement, qui avait l'air vraiment... Enfin, j'ai vu en vrai... J'ai eu la chance de les voir en vrai, qui était assez magnifique, lié à cette situation. Nous, on s'est amusé à faire, pour revenir sur la FIAC dans le Tarn, quand il y a eu l'annulation de la FIAC, on a eu l'idée de prendre le Grand Palais. On nous a prêté le Grand Palais pendant 2 jours, enfin on nous a loué le Grand Palais, je suis gentil, et on a en fait organisé une chasse au trésor, et toutes les œuvres que les participants trouvaient leur était offerte. Oui. Donc effectivement, c'est des moments où on ose faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait le reste de l'année.
On ose faire des choses et on va le voir là avec les trophées Europe 1. La France bouge. Emmanuel Perrotin, le fondateur de la galerie Perrotin. Vous restez avec nous dans un instant, le pitch.
Europe 1. Il est 13h44.
Et une start-up et un pitch à venir avec aujourd'hui l'Odd Project.
Oui, c'est une solution, une solution qui désinfecte l'air avec la lumière. Et on est toujours avec Emmanuel Perrotin, le fondateur de la Galerie Perrotin, qui est notre grand témoin. On va retrouver dans un instant Nathalie Carré de la CCI. Et bien oui, c'est le grand moment de notre pitch du jour.
Et là encore une idée qui a du sens en ce moment, ça existe depuis décembre 2020. Bonjour Olivier Moyen.
Bonjour.
Vous êtes le Lyonnais, vous avez 37 ans, vous êtes le fondateur de l'Odd Protect. C'est une solution qui tue les virus dans l'air en une heure. Quel est le principe? Si vous regardez Europe1.fr, ben vous allez vite le voir. On veut tout savoir. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Alors la LOD, c'est une bonne nouvelle. La France bouge effectivement. La LOD désinfecte l'air grâce à la lumière. La lumière ou désinfection permet d'aspirer l'air ambiant pendant que les utilisateurs sont présents dans la pièce. La lumière va donc être aspirée à l'intérieur du luminaire qui est doté d'un tunnel armé de LOD, armé de LED UVC, qui va donc détruire les virus, qui va détruire le Covid-19 qui est un virus, instantanément et à hauteur de 99% en une heure. Et donc, s'il y a moins de virus dans la pièce, forcément, il y a moins de contamination.
Et ben voilà, et ben formidable. Parfait. Alors, comme tout le monde, vous oubliez de nous dire combien ça coûte.
Alors, on a des systèmes d'abonnement ou à l'achat. L'idée, c'est de permettre à tout le monde de profiter d'un air désinfecté. Chacun de nos auditeurs peut justement profiter de cette solution à partir de 1 euro par jour. Et il n'y a pas d'astérix, c'est sans engagement.
Et c'est 29 euros par mois. Et si on a une formule à l'achat, c'est entre 700 et 977 euros, m'a-t-on dit. C'est bon ?
Exactement, on aime bien les 7.
Génial. Normalement, vous devriez déjà avoir plein de clients parce que vous êtes la solution pour qu'on puisse se réunir enfin dans un endroit clos.
C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est une innovation française qui est évidemment brevetée. On a dû
attendre... ça, parce que quand là, nos auditeurs sont en train d'entendre, on avait déjà fait une solution hein, comme ça, qui nous disait pareil, 99% de certitude que le Covid s'en va. Qui le valide ?
Alors, qui le valide ? Alors, justement, c'est une technologie qui est basée sur une technologie qui est éprouvée. C'est la désinfection par les UVC. Chacun des auditeurs a déjà bu de l'eau potable dans sa vie, on l'espère. Cette technologie est issue de la technologie de désinfection par les UVC, par les ultraviolets. La LOD utilise des ultraviolets qui ont été miniaturisés pour mettre dans un dispositif d'éclairage.
Et ce sont donc ensuite... vous partez du principe que les ultraviolets, les rayons UV, détruisent le virus.
Alors, ce n'est pas moi qui parte de ce principe, la communauté scientifique l'utilise déjà. C'est une technologie qui est obligatoire pour le traitement de l'eau, qui est obligatoire pour désinfecter les blocs opératoires. Mmh. Donc, les UVC, on connaît et on sait que ça fonctionne contre les virus.
Alors, Olivier, je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Olivier, bonjour Emmanuel.
Nous,
bonjour.
On adore l'Odd Protect, mais on veut connaître les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie.
Oui, les forces, alors c'est simple, c'est discret, c'est joli. Des luminaires décontaminants qui remplacent nos luminaires classiques. Voilà, simple. C'est probablement effectivement durable dans le temps, pas que Covid, puisque très certainement les chartes qualité des établissements qui reçoivent du public vont intégrer cette histoire de désinfection dans les mois à venir. Et puis sur votre site, toutes les explications sont très rassurantes, puisqu'en ce moment, on entend à peu près quand même tout et n'importe quoi sur ces histoires de virus. Peut-être un point amélioré sur le site. Il faudrait peut-être ajouter des cas d'usage en montrant combien il faut de luminaires, les différentes possibilités de financement, notamment avec les aides disponibles actuellement. Comment valoriser cette solution auprès des clients aujourd'hui et demain pour aider le dirigeant à décider. Et puis, communiquer auprès des fédérations professionnelles pour que ça intègre les protocoles sanitaires. Parce que même si cette solution est efficace, si on reconfine, ben ça n'aidera pas grand monde.
Bon, c'est intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Que pouvez-vous lui répondre par rapport à ces dernières remarques ?
Alors, la LOD, effectivement, c'est une technologie qui désinfecte l'air grâce à la lumière. Et forcément, la promesse est importante et on délivre la promesse. Aujourd'hui, on équipe des EHPAD, on équipe des hôpitaux. Et effectivement, il y a un point important par rapport effectivement, aux politiques pour qu'ils puissent eux aussi prendre le sujet en main et proposer...
Parce que vous avez besoin de quoi, là, justement, pour vous développer, vous faire connaître, j'imagine ? Vous adosser à des grands groupes ?
Nous faire connaître auprès des grands groupes, effectivement... Et on remercie la France Bouge pour nous donner cette audience. Ce soir, on sera aussi dans un journal télévisé de grande écoute. Et ça va justement nous permettre de faire
c'est
en sorte
bien d'avoir commencé par la France bouge.
De dire que cette technologie existe et ça marche. Les UVC, ça marche. Il fallait simplement associer deux technologies existantes. On est tous dans les lieux confinés. Là, on ne peut pas aérer cette pièce. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres,
aérer,
c'est gratuit.
C'est pour ça que nous portons le masque.
C'est gratuit.
Lampe pour une salle comme celle-ci.
Emmanuel Perrotin, allez-y.
Il faut combien de lampes pour une salle comme celle-ci?
Alors, cette salle fait un tout petit peu plus de 15 mètres carrés. Un dispositif. Par nature, il peut faire 15 mètres carrés. On a des dispositifs LoDaR Plus qui font 35 mètres carrés.
Donc vous adaptez à la taille de la pièce.
Voilà, un débit d'air adapté à la pièce avec une charge de désinfection adaptée.
Donnez-nous de vos nouvelles parce que ça nous intéresse grandement à la France Bouge. Ça s'appelle LoD Protect, une solution qui désinfecte l'air avec la lumière. Merci à vous, Olivier Moyen.
Hein.
Ah bah voilà, vous avez déjà gagné un client.
Bon, on vous garde quand même encore un petit peu. Vous attendez 14 heures pour faire le chèque. En tout cas, merci beaucoup Nathalie Carré. On vous retrouve lundi. Si vous aussi, vous voulez comme ça venir présenter votre projet, eh bien il y a une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
On vous garde Emmanuel Perrotin, suite et fin de notre émission avec des offres d'emploi. Oui, chaque vendredi, des offres d'emploi pour nos jeunes.
Oui, 150 postes à pourvoir partout dans le monde. Quelle entreprise? Eh bien la réponse dans un instant. Et on est toujours avec notre témoin du jour, Emmanuel Perrotin, le fondateur de la Galerie Perrotin. Vous avez entendu ce jingle? Plus de 30 000 offres d'emploi déjà depuis qu'on a lancé cette opération de soutien à l'emploi des jeunes sur Europe.
Oui, donc c'est le moment de demain, un emploi. Chaque vendredi, nous accompagnons, nous apportons notre aide à notre mesure aux jeunes qui recherchent du travail. Bonjour Verica Pavlovic.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel et bonjour Emmanuel.
Voilà, c'est ça, bonjour les Emmanuel.
Vous êtes la directrice des ressources humaines de Sendinblue. Sendinblue, c'est une entreprise qui a été créée en 2012. Vous proposez un ensemble de services aux entreprises pour les accompagner dans leur marketing digital. 420 salariés dans le monde, dont 150 à Paris. Et si vous êtes dans la France Bouge aujourd'hui, bien c'est parce que vous avez 150 postes à pourvoir pour 2021. Quel type de poste?
Oui, tout à fait. Nous avons 150 postes à pourvoir dans le monde et un peu plus de 50 postes à Paris. Donc, nous recherchons des personnes qui vont être plutôt dans la relation client, des chargés de service client notamment, on va en recruter une quinzaine cette année, qui vont aider nos clients à utiliser nos services. Nous cherchons également des Customer Success Managers, qui sont des gestionnaires de clients grands comptes. Et nous allons recruter 6 cette année. Et autrement, nous recrutons des postes un peu plus techniques et dans notre service produit, donc des product designers, lead product designers, product managers et des postes en data.
Ce qui est important, notamment pour les chargés de service clients, pour les gestionnaires de compte, pour les accompagnants clients, pour ces postes, il n'y a pas de formation souhaitée. C'est donc, j'ai envie de dire, ouvert à tout le monde à une seule et unique condition. Il faut parler l'anglais, je crois, pour l'intégralité des postes.
Oui, tout à fait. On est dans 5 pays dans le monde, donc on travaille avec des équipes internationales. Et nos chargés de service clients vont être soit bilingues français-anglais, soit bilingues espagnol. Donc l'anglais est important en tant que langue de travail.
Quand vous dites des postes partout dans le monde, ça peut faire rêver là, certains de nos auditeurs. C'est où? On s'installe où quand on va partout dans le monde?
Alors, on est présent à Berlin. On est présent en Inde également, à Noida, et on est présent à Seattle et à Toronto.
Et là, ça peut être des Français que vous pouvez embaucher pour faire partir, ou c'est quand même plutôt ce qu'on appelle des contrats locaux que vous cherchez quand c'est ça?
C'est un mix des deux, en fait. On recrute beaucoup en local, mais parfois des Français vont aider à ouvrir une nouvelle filiale.
Alors, y a-t-il des profils particuliers? Qu'est-ce qui va faire la différence entre un candidat et un autre? Une personnalité? Il y a quelque chose, une formation spécifique?
Alors, on aime les gens passionnés.
On a une équipe très diverse. Tout le monde nous répond ça, mais
maintenant, si on nous disait, on veut des gens ennuyeux.
Non, mais passionnés. Mais si pour des personnes qui n'ont pas de formation et qui découvrent votre entreprise, comment être passionné?
Alors, aimer déjà travailler dans la tech, dans le marketing digital, s'intéresser à cet environnement qui bouge très vite. Donc, ça veut dire qu'on doit être en constant apprentissage, on doit aimer le changement, être très agile. Et la collaboration est très importante, puisque, je vous le disais, on travaille avec des équipes à l'international. Et chez nous, les valeurs sont très, très importantes. Donc, on cherche des gens qui vont avoir un fort potentiel, prendre des initiatives, mais qui vont aussi savoir être humbles, bienveillants et apporter beaucoup d'entraide à leurs collègues.
Emmanuel Perrotin, vous êtes le fondateur de la Galerie Perrotin. Là, on vient d'entendre, 150 postes à pourvoir à Paris. On recrute aussi dans les galeries d'art?
Écoutez, je pense qu'en ce moment, ça doit être plus difficile, puisque beaucoup de gens n'avaient pas beaucoup de visibilité. Nous, on a 140 employés dans le monde. On est une galerie qui recrutons assez régulièrement des gens, mais c'est très, très technique, c'est très précis. Malheureusement, ça ne nous permet pas, comme dans très grandes entreprises, d'engager beaucoup de gens.
Ça s'appelle Cindy Blue. Merci, Verica Pavlovic. Si on veut retrouver toutes vos offres, on va sur notre carte interactive, hein, sur europe1.fr, une carte par région.
Ou directement sur votre site jobs@cindyblue.com. cindyblue.com.
Et c'est la fin de votre émission. Emmanuel
déjà.
Perrotin, merci d'être venu dans la France Bouge nous raconter vos galeries d'art, hein, nos galeries d'art qui remplacent un petit peu nos musées en ce moment. Elles nous font du bien.
Merci. Effectivement, de nous avoir fait voyager lundi. Émission spéciale autour de la Journée internationale du droit des femmes. Comment on investit quand on est une femme? Pourquoi les entreprises qui sont gérées par des femmes fonctionnent mieux? Et oui, c'est ça, comme
c'est
ça.
Vrai.
Et ce sera à la une lundi.
À lundi, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelatte.